Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann, le professeur de relations internationales Bertrand Badie, le philosophe François-Xavier Bellamy, tête de liste annoncée, très probable, je crois, des Républicains pour les Européennes, et l'ancien conseiller de François Hollande à l'Élysée, Gaspard Ganzer. Au sommaire de ce dimanche 20 janvier, grand débat national, les Français ont-ils envie de participer? Et puis Brexit or not Brexit, un grand désarroi identitaire. Crise des gilets jaunes, semaine 10, et tout un pays qui se posait au fond la même question, participer ou ne pas participer, et comment participer? Était-ce en défilant dans les rues de France à l'image des 84 000 gilets jaunes qui s'étaient de nouveau mobilisés hier, soit la même ampleur que la semaine précédente, mais trois fois moins que lors de l'acte 1 qui avait rassemblé 282 000 participants? À noter le record de 10 000 personnes réunies hier à Toulouse et le Capitole tagué. Parmi les mots d'ordre de ce samedi 19 janvier, le grand débat, on n'en veut pas. Malgré tout, des dizaines de gilets jaunes étaient présents dans les premières réunions organisées cette semaine dans le cadre du grand débat national. Manif contre débat. Ce grand pari du débat que faisait le président de la République et où se jouait sans doute la poursuite de son quinquennat. Une tentative pour passer de la verticalité à l'horizontalité démocratique sur fond de crise politique et sociale majeure, inédite. Une sorte de méga-sondage destiné à tout un pays, un formulaire de 82 questions d'ores et déjà jugé insatisfaisante par ceux qui les trouvaient biaisées ou qui reprochaient à l'exécutif d'exclure du débat les réformes économiques déjà menées sur l'ISF, le Code du travail ou la SNCF. Alors on attendait de savoir, ces prochains jours, si les Français avaient vraiment envie de participer et si c'était avec ces modalités-là. En attendant, on avait lu cette semaine avec intérêt sur le site AOC un texte du philosophe Bruno Latour, se souvenant que les cahiers de doléances de 1789 invitaient le peuple à décrire ce qu'il vivait et non à prescrire des solutions. Chacun a sa place en somme, le peuple pour décrire, le politique pour agir. À condition bien sûr que ce dernier entende et trouve la bonne traduction, référendum ou projet de loi. La France, confrontée comme tant d'autres pays à l'angoisse d'un monde qui basculait, réchauffement climatique, mondialisation, numérisation, urbanisation, glissement de puissance de l'Occident à l'Orient, la France donc serait-elle ce pays qui réussirait à réinventer la démocratie? On avait en mémoire les paroles de Thésée dans Les Suppliantes de Ripide. Qui veut, qui peut donner un avis sage à la cité? À son gré, chacun peut choisir de briller ou de se taire. Peut-on imaginer plus belle égalité civique?
Monsieur le Président, nous souffrons d'isolement en étant pourtant qu'à 160 km de Paris et nous demandons à rester connectés avec l'État et les services publics.
Quand est-ce qu'on arrête la machine à broyer la proximité?
Redonner la possibilité à nos citoyens de faire faire leur carte d'identité dans les mairies.
Les maires sont remis au cœur du débat parce que jusqu'à maintenant on avait plutôt l'impression d'être malmenés. C'est du mépris. On a pu ressentir à un moment donné.
Monsieur le Président, d'abord, je vous félicite de votre démarche. C'est quelque chose de très courageux. Et ce que je vais vous parler, c'est du fond du cœur. Je crois que la France est gravement malade. Ce que j'ai entendu, c'est le pouvoir d'achat. Mieux respecter ceux qui travaillent, qui gagnent le SMIC, qui prennent leur voiture le matin. Et puis finalement, à la fin du mois, ils gagnent moins que ceux qui ont le RSA. Et ça, je l'ai noté.
Ce qui remonte le plus fréquemment, c'est la suppression de l'ISF.
C'est pour moi pas du tout un tabou. Ni un totem. Mais faut pas raconter des cracks, hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a un an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe.
Voilà, et ces petites expressions présidentielles qui continuent de faire sourire dans ce studio de France Culture. Vous venez d'entendre le président Macron en plein débat participatif avec plusieurs centaines de maires. C'était le premier débat de la semaine, mardi dernier, à Bourterroule, en Normandie. François-Xavier Bellamy, vous qui, à ce jour, 11h05 ce dimanche, est toujours maire adjoint de Versailles, ces maires qui viennent rencontrer, participer à ce débat que leur propose le président de la République, vous comprenez qu'ils participent à cette expérience-là?
Bien sûr. D'abord, je crois que ce qui a frappé beaucoup de gens qui, comme moi, ont regardé tout ou partie de ces échanges, c'est l'incroyable qualité de la prise de parole de ces élus locaux. On fait souvent de ces 36 000 communes françaises l'occasion d'une forme d'ironie ou de scepticisme envers un aménagement du territoire qui serait périmé à l'heure de la mondialisation. Mais on voit que précisément dans le contexte de la mondialisation, on n'a jamais eu autant besoin de proximité, pour reprendre un mot qui a été entendu à plusieurs reprises dans cette introduction. Et cette proximité, elle peut être efficacement incarnée par ces élus locaux que sont les maires, et sans doute que le gouvernement a trop oublié en effet pendant la première partie de ce quinquennat. Maintenant, ce qui est certain, c'est que cet exercice démocratique qui a commencé est rempli d'incertitudes quant à sa conclusion. Et je le disais déjà à cette antenne, mais je suis frappé de voir aussi à quel point nous continuons de payer tous ensemble une élection présidentielle qui n'a pas permis de faire de vrais choix. Parce qu'au fond, le débat en démocratie, comme vous le rappeliez, c'est un exercice décisif pour pouvoir nous conduire vers un choix. Il ne s'agit pas de considérer que, comme dans l'Ancien Régime, les cahiers de doléances soient seulement un lieu d'expression et qu'ensuite le gouvernement tout seul prenne la décision. Il ne s'agit pas non plus de considérer que on puisse se passer d'un rythme démocratique. La démocratie directe sans doute manquerait sa cible si elle devenait l'expression d'une fascination pour l'immédiateté qui nous ferait tout le temps changer de cap au gré des changements d'humeur de la population. Encore faut-il pour cela qu'au moment des choix démocratiques qui nous appartiennent, et je pense singulièrement aux élections présidentielles qui ont dans notre pays une importance décisive, nous puissions nous engager collectivement sur un projet de fond, et notamment dans un moment de crise. Nous traversons de toute évidence un moment de crise à tout point de vue. Crisis veut dire la décision. C'est un moment dans lequel nous avons plus besoin que jamais de faire de vrais choix. Et là, nous voyons bien, et c'est assez angoissant, que nous sommes plongés dans une forme de paralysie. Le président de la République a annoncé 10 milliards d'euros de mesures et ensuite il lance un débat. Pour aller où? On ne sait trop. Et c'est sur ce plan-là que je comprends que beaucoup restent sceptiques devant cet exercice dont on ne sait pas tellement quelle issue véritable il aura. Si c'est un nouvel exercice de communication supplémentaire, je crains fort que la tension qui a traversé notre pays au cours des derniers mois ressurgisse plus vive que jamais à l'issue de ce qui apparaîtra nécessairement comme ayant été une sorte de dilution ou de tentative dilatoire plutôt qu'une véritable réponse.
On n'est pas encore dans le temps de la décision, mais bien dans celui du débat, en attendant les états généraux, pour refiler la métaphore de Bruno Latour. Gaspard Ganzer, est-ce que vous saluez l'inventivité de cette initiative présidentielle qui tente de remettre de l'horizontalité dans un système qui avait été dénoncé comme trop vertical ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'il aurait dû même le faire beaucoup plus tôt, puisque c'était l'esprit de sa campagne présidentielle, l'idée de faire de la politique autrement, de donner plus de paroles démocratiques, de réinventer la démocratie. Il avait écrit un livre qui s'appelait « Révolution ». C'était prémonitoire. Et finalement, cette révolution n'a pas eu lieu quand il a été élu, puisque pour des raisons qu'on a encore du mal à comprendre, il a décidé en fait de ne pas respecter l'engagement et de tenir la promesse qu'il avait faite pendant l'élection présidentielle. Et une fois élu, le révolutionnaire est devenu monarque, Jupiter, comme son entourage le disait lui-même. Et ça a créé un malentendu avec les Français dans un premier temps, puis après une vraie crise. Donc là, il reprend le fil d'une conversation qui a été suspendue pendant près de 18 mois, mais c'est très difficile. Donc ça, c'est le premier objectif, il a raison. Après, il y a d'autres objectifs qui sont peut-être moins avouables, mais qu'il a peut-être raison de poursuivre de son point de vue à lui. Tout d'abord, vous savez, j'ai travaillé avec un président de la République qui était très impopulaire. C'est désagréable, l'impopularité. Donc parfois, on a besoin de retourner voir le peuple, on va dire les citoyens, pour se ressourcer. Il y a une forme de réparation narcissique pour emporter le vocabulaire de la psychanalyse. Et on voit qu'il était d'ailleurs par certains moments extatique pendant ses réunions, avec ses performances. On se prouve à soi-même qu'on est encore capable de le faire. La deuxième chose, c'est qu'on se galvanise ses troupes. Parce que les troupes, elles sont quand même bien déprimées. Quand vous sombrez dans les sondages, qu'on vous crache dessus dans la rue, qu'on attaque votre permanent, vous avez besoin que votre chef vous dise « allez-y ». Et donc ça fait du bien. Et d'ailleurs, je pense qu'à l'Élysée, à La République En Marche, là, de nouveau, ils se sentent ragaillardis. Et puis enfin, et bon là c'est peut-être un peu plus polémique, d'une certaine manière, il est une forme de pré-campagne pour les européennes. On va pas se mentir. Il fait campagne sans le dire ou sans en avoir l'air. Ça peut interroger, mais c'est de bonne guerre, d'autres l'ont fait avant lui.
Est-ce que vous l'avez lu, Bertrand Badi, ce questionnaire présidentiel, ces 82 questions, ce questionnaire qui se veut participatif, qui tente de responsabiliser le citoyen, alors avec des questions que d'aucuns trouvent trop orientées, trop biaisées, des questions que, à l'inverse, d'autres trouvent trop ouvertes. En tout cas, clairement, quand on le lit, ce formulaire, on sent bien qu'il y a une volonté de placer le citoyen devant ses responsabilités. Par exemple, sur le thème du réchauffement climatique, en gros, quel sacrifice seriez-vous prêt à mettre, à faire sur la question des finances locales, à quel impôt pourriez-vous renoncer, mais aussi à quel service public pourriez-vous renoncer? Qu'est-ce qui vous inspire ce questionnaire présidentiel?
Alors un certain malaise, et un certain malaise qui ne m'a pas quitté depuis le début de tous ces événements. C'est-à-dire, d'abord, on a tendance à considérer que l'action politique gouvernementale relève de la décision. Ce mot a été employé plusieurs fois, même entre nous ce matin. Non, l'action gouvernementale, c'est pas des décisions, ce sont des politiques publiques, c'est-à-dire un ensemble de décisions. Ce qui me fait très peur, c'est cette façon de segmenter les choses. Quand vous segmentez les choses et que vous juxtaposez toute une série de décisions possibles, rétablissement de tel impôt, suppression ou en tous les cas aménagement de la limitation de vitesse dans les routes, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une addition de petits choix, mais vous perdez de vue la globalité de la chose. C'est-à-dire, là, nous touchons à une pathologie de notre système politique français, peut-être de l'ensemble des systèmes politiques qui sont aujourd'hui touchés par le populisme. C'est-à-dire la perte de vue de la politique globale, c'est-à-dire les choix fondamentaux. Ceci est peut-être à mettre en relation avec la disparition des idéologies, des grandes idéologies qui avaient beaucoup de défauts, notamment de simplifier les choses, de les caricaturer, mais qui avaient au moins l'avantage d'articuler un débat. Lorsqu'il y avait un débat entre socialisme et libéralisme, ça avait un sens. C'est-à-dire, c'était deux choix de société. Et nous perdons de vue aujourd'hui ce que veut dire un choix de société. Le problème, c'est pas de décider de revenir sur la limitation à 80 à l'heure de la vitesse sur les routes. Le problème, c'est de décider de ce que sera la cité. Et si vous avez remarqué, vous parliez tout à l'heure d'élections présidentielles manquées, c'est vrai que de ce point de vue, elle était manquée, mais il faut remonter très loin pour trouver une élection présidentielle où il y avait un vrai choix de société. Peut-être 1981, Valéry Giscard d'Estaing face à François Mitterrand. Et à partir du moment où le citoyen n'est plus animé par un débat qui porte sur quelle cité voulez-vous ? Quel choix global de société voulez-vous ?
Il n'y avait pas de choix de société en 2017.
Il n'y a plus de choix. Quand il n'y a plus de choix, il n'y a plus de débat. Quand il n'y a plus de débat, il n'y a plus de confiance dans ceux qui sont en principe faits pour animer les débats, c'est-à-dire les partis politiques. Regardez à quelle vitesse les partis politiques se sont véritablement autodétruits en France, comme en Italie, comme dans beaucoup d'autres pays d'Europe occidentale, du monde occidental, et tout ceci, finalement, conduit à cette réinterprétation populiste de la politique. Puisqu'il n'y a plus de choix de société, eh bien, c'est en quelque sorte la spontanéité presque affective qui va décider de la manière dont les choses vont se faire. C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, je suis très hostile au référendum d'initiative citoyenne, qui est le contraire même d'un choix de société, qui est un choix décisionnel qui se trouve fragmenté en fonction des questions. Et puisque vous m'interrogez sur le questionnaire, je l'ai pas lu, je l'ai parcouru, mais je l'ai parcouru suffisamment pour voir que c'est là une addition de micro-décisions. Ce n'est pas du tout ce choix de cité et de société dont nous avons besoin pour renaître comme citoyens.
Vous y répondrez ? Vous y participerez ?
Je sais pas. Si j'ai un moment en fin d'après-midi, peut-être que je cocherai quelques cases.
Sylvie Kaufmann, peut-être en réaction à cette dénonciation d'une faillite, d'une époque ou en tout cas d'une classe politique qui ne peut se livrer à ce débat-là et sur des politiques publiques et cette fragmentation de la décision politique qui revient finalement à faire une sorte de marketing politique, si l'on va jusqu'au bout de votre idée, Bertrand Badie. C'est la faillite d'un homme, de ce président-là, en l'occurrence Emmanuel Macron, ou en effet, c'est la faillite d'une époque ?
Un peu tout à la fois. Je crois qu'il faut prendre un petit peu de recul. Cette maladie grave dont souffre la France, qui a été dénoncée par l'élu qui a été cité tout à l'heure au début de l'émission, cette maladie grave, elle ne remonte pas à l'élection présidentielle de 2017. L'élection de 2017 était une étape dans cette maladie grave et on a cru qu'on avait un début de traitement. Enfin, on pensait que on a eu un moment l'illusion que cette élection traiter le mal d'une certaine manière, mais en réalité elle a débouché sur un raté, puisque cette transversalité qu'offrait le candidat Emmanuel Macron, qui a quand même séduit une partie de ses électeurs, enfin une partie de l'électorat suffisante pour le faire élire, et qui a provoqué la défaite de Marine Le Pen, en réalité elle s'est transformée, on l'a dit, en une verticalité. Donc maintenant on passe à une nouvelle étape. Il y a eu cette crise qui continue des gilets jaunes depuis deux mois maintenant, et qui oblige qui a totalement, qui a très profondément ébranlé le président et l'institution. Et donc, maintenant, il essaye de lancer une nouvelle étape avec ce grand débat national. Alors, ce qui me frappe, moi, aussi, dans ce débat, dans ceux qui se disent prêts à y participer, ceux qui se méfient et ceux qui sont contre, on voit que les partis dits de gouvernement, mais on n'ose même plus les appeler de gouvernement, parce que visiblement, ils ne seront plus au gouvernement pendant très longtemps, les partis traditionnels, les partis mainstream, comme on dit ailleurs, sont pour. Mais une grande partie des gilets jaunes, ceux qui s'expriment publiquement, et le Rassemblement national de Marine Le Pen sont contre. Donc, je crois qu'on est presque, on va voir comment ça évolue, mais on est presque dans une opposition de la France de la raison avec la France de la radicalité. Et cette France de la radicalité, elle est de plus en plus radicale. Je suis très frappée par l'utilisation de fausses nouvelles ou fake news, ou infox, je ne sais plus comment il faut dire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, par des gens comme Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, sur, par exemple, le traité de l'Élysée, donc ce traité franco-allemand qui est renouvelé là, qui va être renouvelé cette semaine.
Aix-la-Chapelle, lundi prochain.
Le traité d'Aix-la-Chapelle et dont on dit publiquement, ces dirigeants de partis, qui sont des élus, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan disent publiquement et sans vergogne des choses totalement fausses, c'est-à-dire que ce traité comporterait alors la vente de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, un bilinguisme forcé de ce côté de la frontière mais pas de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'ils ont inventé il y avait encore une autre disposition dont
le fait de donner le siège à l'ONU.
Voilà. Voilà, le partage de la France entre la France et l'Allemagne, membre permanent du Conseil de sécurité par la France et l'Allemagne. Enfin, tout ça est totalement faux, mais est repris en boucle, y compris sur certains médias. Donc là, on voit qu'on est dans un domaine, une réalité politique qui est tout à fait différente de celle de la France, de ce que j'appelle la France de la raison. Voilà, alors les premiers retours de ce débat ont l'air encourageants, parce que ce qu'on a vu, je ne parle pas tellement des débats du président Macron avec les maires, ça c'est une étape qui est importante.
Il y a plusieurs types de débats.
Voilà, exactement. Alors il y a ce débat dont on a vu deux exemples
entre
cette
semaine. Entre le président et des maires.
Qui dure 6
heures et des débats qui sont organisés dans les marchés.
Là aussi, quand on compare à Castro et Chavez, je suis désolée, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les monologues de 6 heures de Chavez et de Castro, mais c'est vraiment des monologues, ce n'est pas des échanges avec des maires. Hein. Bon, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est intéressant, c'est utile pour Macron, bien sûr, parce que ça lui permet d'essayer de récupérer les maires, de convaincre les maires qu'il avait lâchés. Et il a besoin de cet intermédiaire-là. Les maires sont essentiels dans ce dispositif du débat, les élus locaux. Donc il faut qu'il aille à leur reconquête. Et puis il y a l'autre débat qui, à mon avis, est vraiment le vrai débat, qui est celui des citoyens, organisé en général par des élus, mais aussi par des associations, des particuliers. On voit sur le site qu'il y en a déjà plusieurs centaines qui sont organisées. Alors, les premiers qui ont eu lieu, on voit que ce sont des gens de bonne foi qui viennent, qui sont souvent en colère, mais ces gens-là sont en fait un peu déjà les convaincus. Ce sont ceux de la France de la raison qui connaissent la valeur et la vertu du débat. Ce qu'il faut entraîner après, ça, c'est ça le grand test et c'est le grand enjeu, ce sont ceux qui, pour l'instant, ne voient une vertu de l'expression que dans la violence et l'expression de la colère dans la rue. Voilà, alors est-ce qu'on arrivera à transposer cette colère en débat ? En France, on n'a pas tellement la culture du débat oral. En réalité, on adore le débat écrit, mais même dans l'éducation primaire et secondaire, on ne favorise pas beaucoup le débat oral, malheureusement. C'est à la grande différence des pays anglo-saxons. Donc c'est un grand pari. Voilà, mais l'enjeu est extrêmement important.
Est-ce que vous avez le sentiment, Gaspard Ganzer, en effet, d'être soit au bord du volcan, c'est-à-dire que soit ce débat réussit, soit en effet la poursuite de ce quinquennat va s'avérer de plus en plus difficile, et peut-être avec lui la poursuite des institutions ou de la pratique des institutions telles qu'on les a connues, ou est-ce que vous avez le sentiment, en effet, au fond, de la politique qui reprend ses droits, le débat politique qui reprend, pour reprendre ce dont parlait tout à l'heure Bertrand Badi?
Non, je pense que du point de vue d'Emmanuel Macron, c'est un peu la dernière chance, hein. C'est stop ou encore, donc pour ça qu'il mouille la chemise au sens propre comme figuré à l'heure actuelle. Il a compris le danger. Hein. Il a vu que là, il n'était vraiment pas très loin du précipice. Donc il s'y engage personnellement, il mobilise tout son appareil militant gouvernemental et il a raison de le faire. Moi, je crois beaucoup dans ces débats. Je crois qu'il y en a plein de formes. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de ceux d'Emmanuel Macron, mais il y en a plein d'autres qui sont faits sur le terrain. Il faut laisser d'ailleurs les citoyens s'auto-organiser
pour
le faire.
Anne Hidalgo en lance un aussi à Paris.
Dans toutes les villes, les associations. Et je pense que c'est essentiel. D'ailleurs, sous des formes différentes, parce que il faut laisser les gens jouer le jeu du débat démocratique selon les modalités qui leur appartiennent. Et il faut aller loin, c'est-à-dire qu'il faut aussi aller débattre avec les gens là où ils sont, dans la rue, là où ils travaillent, là où ils vivent. Et finalement, de cette manière-là, on réhabilite la politique dans ce qu'elle a de meilleur. On l'a souvent dit ici, un élu local, un élu national, c'est fait pour être à portée d'engueulade, d'aller voir les gens directement. Alors Emmanuel Macron, il a encore de la marge avant d'aller directement dans la rue discuter avec les citoyens, mais peut-être que ça viendra enfin. Et je crois que à travers cette crise que nous vivons, nous pouvons retrouver cela. En revanche, je pense que ça ne suffira pas à résoudre le malaise démocratique qui a été énoncé tout à l'heure par Bertrand Badie notamment. Parce que je crois que le problème, il est dans les instituts, notamment dans les institutions de la Ve République elles-mêmes. Il y a ce hiatus terrible entre l'élection présidentielle qui confie la totalité des pouvoirs à un homme, pour l'instant, peut-être un jour une femme, qui a obtenu, on va dire, au mieux 30% des voix au premier tour, c'était Nicolas Sarkozy, et 24% quand c'est Emmanuel Macron, puis après lui donne une majorité à l'élection législative, et puis après, il n'y a plus aucune corde de rappel pendant 5 ans. C'est pour ça que ça sera ma divergence avec mon ancien professeur Bertrand Badie, c'est que moi, je pense qu'il faut remettre du référendum. C'était d'ailleurs l'esprit de la 5e République avec le général de Gaulle. Depuis 2005, on ne fait plus de référendum, donc il faut faire du référendum national, il faut faire du référendum local, du référendum d'initiative citoyenne, et il ne faut pas avoir peur.
À quelle échéance dans ce
Ben, j'espère qu'ils vont en faire un cette année. Enfin, moi, je pense que si vous voulez, je peux aussi apporter une critique très directe. Je pense que dans sa lettre aux Français, le président de la République aurait dû être direct et clair et simple. Il a dit, ben voilà, à la fin de ce débat, je vous poserai par référendum une ou plusieurs questions. Et au moins, c'était clair, net, précis. Ouais. Il va être obligé de le faire au bout du compte. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il le fera. Mais il aurait dû le dire depuis le début.
C'est là qu'est le malaise, en effet, François-Xavier Bellamy. C'est qu'on a ce débat participatif qui est enclenché, donc un appel à participer, mais on ne sait pas au fond à quoi servira cette participation.
Exactement, c'est la difficulté devant laquelle on se trouve placé, c'est que débattre c'est très bien, mais pourquoi ? Pour quel résultat ? Et dans l'état actuel des choses, je ne vois pas comment ce débat, s'il n'a pas d'aboutissement, pourrait bien se passer. Je veux dire par là que ça peut être l'occasion d'échanges intéressants, au mieux, mais s'il ne débouche pas, il ne peut qu'accentuer encore le malaise, parce que les gens diront, nous nous sommes exprimés, nous n'avons pas ce que nous avons demandé, alors comment interpréter ce nouveau déni de démocratie, c'est ainsi qu'il sera nommé. Pour ma part, je partage totalement l'analyse que faisait Monsieur Badie tout à l'heure. Je crois profondément que il y a quelque chose d'un peu pathétique dans la lettre d'Emmanuel Macron aux Français. C'est le travail des responsables politiques que de proposer aux électeurs un choix de société, un choix face auquel il faille trancher. Et de ce point de vue-là, évidemment, la décision fait partie de l'expérience politique, mais non pas au sens où ce serait une collection de petites décisions, mais le fait de s'engager dans un projet cohérent. Un projet cohérent qui, disons-le, ne peut que mettre du temps avant de se déployer totalement. On peut pas imaginer évaluer les résultats d'une politique publique dans sa globalité au bout d'un an de mandat. Et de fait, dans une période de crise comme celle que nous traversons, des choix courageux qui seront nécessaires vont supposer de passer sans doute par des moments difficiles, au terme desquels nous retrouverons peut-être une forme de liberté plus grande, de plus grande maîtrise de notre destin, de plus grande qualité dans le travail que nous pouvons faire avec les partenaires que nous avons au plan international, une plus grande prospérité collective, mais tout ceci ne sera pas immédiat. Tout enseignant sait que si vous adoptez une nouvelle manière de pratiquer votre enseignement avec vos élèves, il va falloir du temps pour que vous perceviez le résultat de votre travail. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire en filigrane ou en creux dans votre propos ? C'est-à-dire que vous percevez ce débat participatif comme une faiblesse ? Emmanuel Macron aurait dû tenir sur ce qu'était son programme pendant sa campagne électorale, l'appliquer et ne pas céder à une demande de participation ?
Contrairement à ce qu'on feint de croire aujourd'hui, Emmanuel Macron a été essentiellement élu sur la promesse du « en même temps », c'est-à-dire de la fin des clivages, c'est-à-dire du fait qu'il n'était plus nécessaire de faire un choix. et qu'on allait pouvoir tout choisir en même temps. Mais ça n'est pas possible, parce que la vie politique, c'est nécessairement des choix à faire. C'est-à-dire des clivages qui doivent s'exprimer dans une forme de pluralisme authentique qui permet aux gens de librement s'engager au moment d'une respiration démocratique dans une voie particulière. Et après, charge aux dirigeants qui ont été élus, avec la légitimité qui est la leur, de persévérer dans la voie qui a été choisie, non pas par eux, mais à travers eux, par une majorité de Français. Même une majorité fragile, parce que c'est comme ça que la démocratie fonctionne. Mais je crois qu'aujourd'hui, paradoxalement, nous payons le en même temps. C'est-à-dire qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, comme le veut la formule célèbre, et aujourd'hui, eh bien, c'est la France qui paye les dépens de l'ambiguïté dont elle est sortie, avec le rêve de la fin des clivages, ce rêve qui voulait dire d'une certaine manière d'ailleurs la fin de la politique en réalité, eh bien, il voulait nous décharger du poids d'une responsabilité partagée. Nous retrouvons aujourd'hui cette responsabilité, mais sous la forme un peu triste, d'un président de la République qui, après avoir joué à Jupiter pendant un an et demi, s'adresse désormais aux Français en leur disant « Souhaitez-vous que nous fassions des quotas d'immigration? Désirez-vous que nous abolissions les 80 km/h ?» Comme si, au fond, il n'était que l'exécutant immédiat du désir instantané qui se manifeste dans l'opinion publique.
Et en même temps, Bertrand Badi, ironie du sort, ce qui a été beaucoup reproché à Emmanuel Macron pendant ce début de quinquennat, ce n'était pas de ne pas choisir, c'était d'appliquer à la va-vite ou de façon bulldozer un plan de réforme qui allait beaucoup trop vite. Donc était-ce réellement cela ce qui lui était reproché dans sa pratique du pouvoir ?
Il y a tout, si vous permettez, en même temps. C'est-à-dire... Je suis tout à fait d'accord sur cette idée que la négation du choix et de l'obligation de choisir, croire que tout est possible en mêlant tout, était désastreux, parce que fondamentalement antipolitique. Là, je crois qu'on est tout à fait d'accord. Mais peut-être faut-il aller plus loin, parce que derrière ce malaise, il n'y a pas seulement cette négation du choix et du débat de fond. Il y a aussi un déni du réel. C'est-à-dire que nos sociétés, depuis la chute du mur, vivent en quelque sorte les délices d'une fin de l'histoire imaginée. C'est-à-dire pensent que de toute manière tout est arrivé, que la société libérale s'est épanouie et qu'il suffit de la gérer. Et effectivement, on est entré dans le temps de la gestion. L'une des expressions terribles de ce temps de la gestion, c'est la nouvelle posture des économistes. Les économistes, vous êtes sûr qu'ils sont une science et qu'il n'y a pas à discuter des choix qu'ils entendent opérer et que, de même que vous ne discuterez pas l'ordonnance de votre médecin, de votre pédiatre, par exemple, eh bien, de la même manière, il n'est pas question de décider ce que la science, de réfuter ce que la science économique aura décidé.
Le fameux « there is not alternative », le fameux
voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour le politique. Si véritablement la science économique choisit et décide de tout, bah, d'abord, il n'y a plus de social, et là, nous en vivons de manière aiguë les conséquences, mais il n'y a plus de politique non plus, parce que pourquoi délibérer sur quelque chose qui est scientifiquement dit? Et ça, effectivement, il y a eu un mouvement de rejet contre ça. Mais derrière tout ça, il y a encore une autre couche, qui est le déni du réel. C'est-à-dire que depuis cette fameuse chute du mur, nous considérons qu'il n'y a pas d'extérieur. C'est-à-dire que nous sommes le monde, et que la mondialisation, elle n'existe pas ou elle n'existe que par nous. Un peu d'ailleurs ce qui était l'attitude du président des États-Unis, elle n'existe que par nous et pour nous, que les autres modes de société sont inférieurs, marginaux, peu importants. Regardez, cette incapacité que nous avons de construire un partenariat avec la Chine, cette espèce de négationnisme permanent pour ce qui est cette première puissance bis de l'économie mondiale. Que, de toute manière, s'il y a des conflits ailleurs et si nous en subissons les conséquences, ben, nous pouvons tout résoudre nous-mêmes, etc., etc.
Mais qui, pour que je comprenne, qui est dans cette négation du monde tel qu'il existe? C'est le président de la République en exercice ou c'est le peuple français?
C'est le profil de toutes les classes politiques qui gouvernent ce monde occidental. Vous le retrouvez dans l'ensemble des pays européens, à très peu d'exceptions près. L'Allemagne est peut-être une petite exception, parce que l'Allemagne a été obligée, des faits obligent, d'établir un nouveau regard sur le monde. Et c'est peut-être une de ses supériorités cachées, ça on n'en parle jamais, la sagesse de la politique étrangère allemande. Bon. Mais pour le reste, eh bien, effectivement, nous sommes comme à la veille de la fin du monde, dans une espèce de béatitude sur notre supériorité et de notre capacité d'occulter tout le réel qui nous gêne.
Voilà, c'est Sylvie Coffin qui est en train de nous amener à notre deuxième thème. Est-ce qu'au fond, cette crise des Gilets jaunes, comme cette crise du Brexit, elle ne traduit ni plus ni moins, en effet, que cet aveuglement ou cette cécité, ce refus de prendre en compte cette évolution du monde qui s'appelle la mondialisation?
Attendez, alors la béatitude, d'abord, je ne sais pas si vous la voyez, Bertrand Badie, mais moi, je ne la vois pas du tout, nulle part.
Dès qu'on parle de nous, on est béat.
Ah non, alors c'est pas l'impression que j'ai en ce moment. Au contraire, moi j'ai vraiment absolument le sentiment tout à fait opposé. On est dans un moment de crise extrêmement grave. Je veux juste dire, ça fait des semaines qu'on passe notre temps à en parler autour de ce micro. Donc à la fois en France et en Europe, dans nos sociétés démocratiques et même à l'échelle mondiale. Par ailleurs, la Chine... notre modèle, il me semble que la Chine, elle est le premier pays à appliquer et à profiter de ce modèle de mondialisation. Donc c'est pas qu'on refuse à la Chine le droit d'accéder à notre modèle. Elle bondit dedans. Elle a très envie de. Elle réussit d'ailleurs.
Mais la mondialisation, c'est pas notre modèle. C'est justement là que le bas blesse.
Bah, c'est
la
mondialisation, c'est le modèle. C'est le modèle issu de la fin de la guerre froide finalement.
Oui, mais
donc,
c'est dépassé tout ça. Bah, c'est dépassé. C'est
pas pour la Chine, c'est pas pour la Chine, c'est pas dépassé du tout pour la Chine.
Entre dans une mondialisation qui est la sienne, justement, et qui n'est plus celle que nous avons fabriquée.
Qui ne se fait pas sans nous, en tout cas. Non, alors pour revenir, je crois qu'on est on est en plein dans le vif du sujet, évidemment, c'est que tout ce qui se passe en ce moment fait partie d'une crise générale. Et je crois que les questions de ce questionnaire, finalement, elles sont totalement dérisoires à côté de l'échelle du défi auquel on est confronté. Et je crois qu'elles n'ont pas grande importance, parce qu'on le voit bien déjà dès le début de ce débat. Les gens s'emparent, à quelque niveau qu'ils soient, s'emparent de tout ce qu'ils veulent. Ils ne se limitent pas du tout à 82 questions. Et on va être obligé de tenir compte de ce qu'ils disent. Alors après, c'est vrai... C'est tout à fait crucial, mais je crois qu'on est en terrain totalement inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer. Il est évident, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment, il est évident que si la présidence ne tient pas compte de ce qui sort de ce débat, si tant est qu'il en sorte quelque chose, espérons-le, ça mènera à une crise majeure. Et vous parliez des états généraux tout à l'heure, on a bien vu ce qui s'est passé à la fin, je ne le souhaite pas à personne actuellement. Mais donc c'est ouvert, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment dans une situation où beaucoup de choses sont inconnues, sont ouvertes, on est en pleine incertitude et il faut que, je crois que si on ne travaille pas tous à essayer de sortir de cette crise de manière rationnelle, et effectivement on s'expose à des risques assez graves. Comme
alors,
on voit ailleurs.
Merci pour cette transition toute trouvée, Sylvie Coffin, puisqu'on va maintenant aller faire un tour outre-Manche pour prendre le pouls, en effet, d'un autre peuple, lui aussi en pleine crise. Brexit or not Brexit, un grand désarroi identitaire.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Les Britanniques eux-mêmes n'étaient plus vraiment au clair sur qui voulait quoi. Mardi dernier, 196 députés conservateurs avaient voté en faveur du projet d'accord sur le Brexit négocié par Theresa May avec les Européens, sorte de divorce à l'amiable où l'on conservait un certain nombre de biens en commun avec notamment le maintien d'une union douanière. 118 conservateurs avaient voté contre, ce qui signifiait que le propre camp de la chef du gouvernement était divisé. Pendant ce temps, le parti travailliste demeurait ambigu à l'image de son leader, Jeremy Corbyn. Initialement eurosceptique dans un parti majoritairement europhile, Corbyn expliquant désormais que toutes les options restaient ouvertes. Brexit avec accord et maintien dans l'union douanière avec les Européens, Brexit avec autre version de l'accord ou deuxième référendum. En attendant, la France déclenchait cette semaine un plan d'urgence lié à un Brexit sans accord pour notamment protéger les intérêts des Français au Royaume-Uni. Le hard Brexit envisagé grandeur nature par les Européens. Quand les Britanniques, eux, semblaient ne plus savoir ce qu'ils voulaient et donc qui ils étaient. Un peu, beaucoup, pas du tout européen, un peu, beaucoup, pas du tout insulaire, un peu, beaucoup, en plein désarroi identitaire.
Le oui à droite, 202.
The no's order.
Le non, silence.
The eyes to the right, 202.
Le oui à droite, 202. le non à gauche, 432. Donc le non l'emporte, le non l'emporte. Vote terminé.
Monsieur le Président, la Chambre a parlé et le gouvernement écoutera. Il est clair que la Chambre n'appuie pas cet accord. Mais le vote de ce soir ne nous dit rien sur ce qu'elle soutient. Rien sur la façon dont... Rien sur la façon dont, ou même si, elle a l'intention d'honorer la décision que le peuple britannique a prise lors d'un référendum que le Parlement a décidé de tenir. Et les gens, en particulier les citoyens de l'Union européenne qui ont élu domicile ici, et les citoyens britanniques vivant dans l'Union européenne, méritent des éclaircissements sur ces questions dès que possible.
Voilà la pétaudière du Parlement britannique mardi dernier, une Theresa May stoïque mais dépassée par la confusion politique ambiante, ayant de surcroît survécu cette semaine à une motion de censure. Elle est dans une sorte de mission impossible, Bertrand Badi.
Oui, tout à fait. Et sans vouloir revenir sur le débat de tout à l'heure, voilà une belle illustration. C'est-à-dire, un référendum ne résout rien. Parce que la vraie question, c'est pas êtes-vous pour ou contre l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Europe ? C'est quelle est votre vision du monde et de l'avenir de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire comment envisagez-vous l'éventualité d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et là, la question est beaucoup plus compliquée parce qu'elle renvoie à une politique globale. Or, le gouvernement britannique, M. Cameron qui avait eu l'imprudence de lancer ce référendum, et le gouvernement britannique sont justement piégés par cette aporie référendaire. C'est-à-dire, effectivement, comme l'a dit Mme May elle-même, il n'y a aucune option politique claire derrière, d'une part, le Brexit et, d'autre part, le vote contre l'accord passé entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. C'est-à-dire que le malheur de Mme May et le malheur de l'action gouvernementale là, c'est qu'il n'y a aucune option majoritaire. C'est-à-dire que vous avez Brexit durs, vous avez des pro-européens, vous avez toute une masse de choix entre les deux, qui à chaque fois ne laissent pas sortir ce que j'appelle l'option globale. C'est-à-dire, comment peut-on voir la Grande-Bretagne aujourd'hui dans le monde ? Et d'ailleurs, ce qui me frappe, c'est que même dans le débat, hors du référendum, hors du vote au Parlement, ceci n'est jamais vu, n'est jamais dit. Donc ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure.
C'est-à-dire que comme c'était... en France, on est dans une parcellisation du débat politique ?
Oui, et on est en même temps, effectivement, et vous l'avez très bien repris tout à l'heure, c'était dans une espèce de marketing où on vous vend, on vous offre toute une série de décisions, jamais de politique, et on est par ailleurs dans une cécité de ce que peut être la posture d'un pays européen occidental dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire sans se définir par rapport à ce monde. Ce que nous voyons à travers les difficultés de l'accord passé entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, c'est le fait que les interdépendances entre États sont des acquis sur lesquels on ne peut plus revenir. C'est-à-dire que pour la Grande-Bretagne, comme d'ailleurs pour les autres Européens, couper net les liens, c'est une perte sèche, c'est une perte absolue. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde où on est passé de la grammaire de la souveraineté à la grammaire de l'interdépendance. Cette grammaire de l'interdépendance, personne ne veut l'ouvrir. Il faut surtout pas regarder ce mode d'emploi. Il faut surtout pas réfléchir à la manière de se comporter dans ce monde.
Pour revenir deux
nouveau.
Minutes à la situation française, le président Macron en parle abondamment de cela. Il y a eu pas mal de discours sur l'Europe où il explique à quel point la France ne s'en sortira pas sans continuer de participer à cette aventure européenne. Angela Merkel tient elle aussi très souvent ce raisonnement-là. Donc cette parole publique, elle existe des dirigeants.
Émilie Aubry, la parole est là, mais la politique ne suit pas. Moi, c'est ça qui m'effraie. C'est-à-dire que les dissertes sont toujours bonnes. Je trouve qu'effectivement, elles méritent une très bonne note. Mais la pratique, c'est-à-dire les choix politiques fondamentaux qui concrétisent cette parole. C'est-à-dire, on est dans une logique d'interdépendance, alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut être en même temps dans une logique d'interdépendance généralisée et parler encore de quotas migratoires ? C'est absurde, c'est complètement absurde. La migration, c'est une donnée sur laquelle on ne pourra pas revenir, qui est une donnée de notre mondialisation. Et offrir en pâture à une opinion publique chauffée l'idée de quotas migratoires, c'est totalement en rupture par rapport à cette idée d'interdépendance. Il faut apprendre à vivre dans ce monde, ça on ne veut surtout pas.
Alors, Alors, est-ce que Theresa May sait vivre dans ce monde-là, Sylvie Kaufmann? C'est toute la question. Expliquez-nous peut-être rapidement ce qu'elle va faire demain à Bruxelles.
J'en serais bien incapable, parce que je ne suis pas sûre que même à ce stade d'aujourd'hui, elle le sache elle-même.
Donc, elle est censée en tout cas aller présenter demain au Parlement un plan B.
Demain, elle avait 4 jours pour formuler un plan B qui soit acceptable par le Parlement britannique et éventuellement acceptable aussi par les Européens. Je pense que c'est impossible. Enfin, quand vous parlez à des Britanniques actuellement, ce qui est frappant, c'est à quel point de désarroi ils sont arrivés, y compris des élus, les journalistes, les élus, les gens qui étudient qui sont plongés dans ce sujet du Brexit depuis 3 ans. Et je dois dire, c'est pratiquement tout le monde en Grande-Bretagne maintenant, parce que c'est devenu totalement obsessionnel. Et on comprend pourquoi, parce qu'il s'agit quand même d'une question tout à fait existentielle pour eux. Mais on voit que ça pose 2 questions. Alors, effectivement, cette interdépendance dont parlait Bertrand Badie, qui est que comment est-ce qu'on défait la mondialisation aujourd'hui? C'est impossible. Enfin, ou alors, c'est extrêmement compliqué. Première chose. Et deuxième chose, la crise démocratique que ça provoque en Grande-Bretagne. Et ça, c'est extrêmement frappant, parce qu'on parle quand même de la plus vieille démocratie parlementaire du monde, d'une société politique qui a vraiment mené presque jusqu'à l'excellence le mécanisme du débat parlementaire et du compromis et du consensus. Et là, on voit qu'ils sont totalement au bout de ce mécanisme, qu'ils n'arrivent plus. Alors, on a en plus le conflit direct entre la démocratie directe et la démocratie représentative, puisqu'on a un référendum qui a pris une décision par 51,9%, donc avec une toute petite majorité, ce qui fait qu'on a vraiment un pays coupé en deux. Et puis, finalement, un Parlement qui a été élu après ce référendum en 2017, donc peut-être une légitimité un peu différente, qui s'empare de cette décision et qui prend la décision inverse. Donc voilà, là on a un choc des deux légitimités absolument direct. Et donc on parle maintenant de plus en plus d'un deuxième référendum qui, selon les sondages actuels, mènerait à la décision inverse, c'est-à-dire au maintien, à une toute petite majorité, au maintien au sein de l'Union européenne. Je veux dire, c'est de la folie. J'entends même des gens dire qu'il faudrait un référendum à 2 tours. Donc, pour nous, c'est très difficile à comprendre. Pour eux aussi, c'est très difficile à comprendre. Mais je crois qu'on a vu que Theresa May n'est pas à la hauteur de ce défi maintenant. On peut parler de ses erreurs, bien entendu, mais enfin bon, l'état actuel des choses, c'est celui-ci. Maintenant, qui d'autre qu'elle est à la hauteur de ce défi? Il y a aussi un gros problème de leadership en Grande-Bretagne, de personnel politique. Tout le monde a très peur, y compris au Parti travailliste. On a très très peur d'une élection anticipée qui amènerait Jeremy Corbyn au pouvoir. Voilà, donc c'est très compliqué.
J'entends cette complexité, très compliquée en ce moment d'être une journaliste spécialiste des questions internationales qui essaye d'expliquer ce qu'est le Brexit. Très compliqué également quand on est journaliste d'essayer de comprendre ce qui se joue en France avec cette crise des gilets jaunes. Très compliqué aussi quand on est un responsable politique ou quelqu'un qui regarde avec intérêt la chose publique. Gaspard Ganzer, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Ces 2 sociétés françaises et britanniques totalement fracturées, divisées?
Oui, mais je pense que je vais être positif. Je pense que c'est un moment de vérité dont il peut ressortir le meilleur des 2 côtés de la Manche. On a beaucoup parlé de la France, donc je vous parlerai du Royaume-Uni. Moi, dans la scène qu'on a écoutée tout à l'heure, ce brouhaha au Parlement, on peut voir le pire, la confusion, mais on peut voir le meilleur aussi. Parce que qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie, c'est la régulation politique par la raison, l'échange, le débat de conflits qui pourraient se régler autrement, par la violence, pour dire les choses extrêmement naturellement. Et bien, les Britanniques, qui sont dans une ornière depuis 2 ans, et bien ils s'escriment, ils se battent pour essayer de trouver une solution d'un point de vue démocratique. Et ça, je trouve ça formidable. Ils sont retournés aux urnes, ils vont devant le Parlement, ils ne trouvent pas de solution, ils retentent leur chance. Mais a été mis en minorité, il y a eu une motion de censure, ça n'a pas marché. Tous les mécanismes démocratiques sont utilisés. Et je leur fais confiance, parce que justement, c'est la plus grande démocratie du monde, c'est la plus vieille démocratie du monde, et je suis certain qu'ils arriveront à trouver en eux-mêmes les solutions. Lesquelles seront-elles? Est-ce que ça sera une nouvelle élection législative? Est-ce que ça sera un nouveau référendum? Pourquoi pas? Enfin, tout est possible. Si le peuple, à un moment donné, est reconsulté et qu'il décide quelque chose de différent, il a bien le droit. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas toujours avancer tout droit vers l'iceberg sans mettre de coups de barre à gauche ou de coups de barre à droite. C'est quand on s'est trompé, le reconnaître. Et ça, je trouve que c'est formidable. Le deuxième moment de vérité, il est pour les Européens eux-mêmes. Parce que là, pour le coup, pour rebondir ce que dit sur Bertrand Badine, chacun voit bien quand même le risque de sortir de l'Union Européenne. Il y a eu un moment, on pourrait en rire, mais Marine Le Pen, qui tranquillement, depuis l'élection présidentielle, est totalement revenue sur sa position, d'abord sur l'Europe, puis maintenant sur l'euro, et hop, en passant, je ne veux plus sortir de l'euro, parce qu'elle a bien compris que la sortie de l'Europe, et évidemment la sortie de l'euro, était une impasse complète pour les populistes. Et j'espère que bientôt, pour aller dans le sens de ce qu'a dit Bertrand Badi, bientôt on arrêtera avec cette vieille lune des quotas d'immigration. Je crois qu'il y a encore des membres du gouvernement qui pas plus tard qu'aujourd'hui ont dit qu'ils étaient favorables à ces quotas. Je suis effrayé par tant de bêtises.
Mmh. Est-ce qu'on est en effet, François-Xavier Bellamy, dans ce moment de vérité, grâce ou à cause du Brexit, où il devient évident qu'il est impossible de sortir de l'Union européenne dans cette mondialisation-là, que les Européens ont la nécessité de se fédérer? Et qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion, à vous qui, sans doute, allez vous lancer en effet dans cette aventure des Européennes?
Il me semble que le message qui est envoyé aux peuples européens à travers cette situation difficile dans laquelle se trouve l'Angleterre post-Brexit, ce message que vous venez de résumer en disant qu'il était désormais évident qu'il est impossible de sortir de l'Union européenne, ce message
est profondément... Je rebondissais sur ce que disait l'instant Gaspard Ganzer.
Profondément nocif en fait pour le projet européen. Nous sommes dans une pièce en ce moment, la conversation est très sympathique et tout va bien. Imaginez un seul instant qu'on nous dise que nous sommes enfermés dans cette pièce et que nous ne pouvons pas sortir, la situation la plus sympathique devient très oppressante. Et je crois que pour que le projet européen reste un projet libre et démocratique, il faut que les peuples aient le sentiment qu'ils y adhèrent volontairement. C'est la raison pour laquelle je crois qu'un second référendum serait un message politique assez catastrophique. D'abord, nous ne savons pas du tout ce qu'il en serait réellement du résultat. Le sondage qui donne aujourd'hui le Brexit perdant dans un second référendum, c'est exactement le même sondage qui donnait le Brexit perdant juste avant le premier référendum. Donc ne croyons surtout pas que les choses iraient comme nous l'entendons. Et d'ailleurs, j'observe que même Nigel Farage, qui a été l'un des grands promoteurs du Brexit, lui aussi demande un second référendum parce que il pense que ce serait l'occasion d'enterrer définitivement l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne. Maintenant, ce qui me frappe beaucoup dans ce débat qui traverse la société britannique, il se trouve que ça n'a rien à voir avec les questions politiques actuelles, mais j'étais à Londres le mardi dernier, le jour du vote au Parlement, pour une conférence qui était prévue de longue date. Et ce qui m'a beaucoup frappé en parlant avec les Britanniques, c'est que ils vous disent deux choses. Ils vous disent d'une part, j'étais à Londres donc, ils vous disent à Londres qu'ils ne connaissent pas de gens qui aient voté pour le Brexit. Ce qui est très impressionnant. Ça veut dire qu'un peu comme en France, la fragmentation, la fracture qui traverse la société anglaise est une fracture qui est très géographique, très sociologique. Et ça explique beaucoup de la tension qui règne aujourd'hui au Royaume-Uni. Parce que, je suis d'accord avec Gaspard, le Royaume-Uni est une magnifique démocratie parlementaire. Et cette démocratie parlementaire est aujourd'hui mise en crise, un peu comme la nôtre, par le fait qu'il ne s'agit pas de partager des visions du monde autour desquelles nous discutons et parfois même nous disputons, mais il s'agit d'opposer des catégories sociales qui se sont séparées progressivement et qui maintenant expriment des intérêts divergents plus que des visions du monde opposées. Et le deuxième aspect qui me frappe beaucoup, c'est de voir de façon très, très incroyable, il suffit de lire la presse pour se rendre compte que, au fond, cette crise-là est due aussi à une très grande irresponsabilité des responsables politiques, de ceux qui auraient la charge justement de permettre une voie de sortie. Theresa May, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais elle a proposé à Jeremy Corbyn de se mettre autour d'une table pour parler ensemble de la manière de construire un consensus, et Corbyn a refusé. Et je crois qu'il y a quelque chose là-dedans, évidemment, qui, dans le jeu partisan, paralyse aussi la possibilité pour une société de se réconcilier autour de la difficulté qui est la sienne. Et je crois que malheureusement, le Royaume-Uni paye aussi, et l'Union européenne tout entière, parce que je le disais, le projet européen à coup de scénarios comme celui-ci va devenir très anxiogène pour toutes les démocraties européennes. Le projet européen se trouve ici fragilisé par les dirigeants européens eux-mêmes qui ont, à mon avis, de manière absurde, adopté dès le début du Brexit une attitude un peu de sanction en disant nous allons faire un exemple, nous allons montrer qu'il est douloureux de sortir de l'Union européenne. Je crois que c'est à la fois dangereux pour l'avenir de l'Europe parce que nous n'avons pas intérêt à perdre nos liens avec le Royaume-Uni, et c'est dangereux aussi pour l'idéal européen en tant que tel, si tant est qu'il est c'est encore une légitimité politique.
Sylvie oui. Kaufmann et puis Bertrand Maddy.
Je voulais rebondir sur cette idée qu'il est impossible de sortir de l'Union européenne. Non, il n'est pas impossible de sortir de l'Union européenne. C'est vrai qu'on ne l'avait pas prévu, mais ça n'est pas impossible. Le problème, c'est que ce référendum britannique repose sur un immense malentendu. C'est qu'en réalité, la campagne n'a pas été vraiment menée sur ce que c'est que l'Union européenne ou ce que doit être, ce que devait être la relation future de la Grande-Bretagne avec l'Union européenne. Elle a été menée sur un malaise britannique, sur comme ici, comme chez nous, des décennies de problèmes accumulés et qu'on n'a pas dit la vérité aux gens. On leur a vendu on leur a beaucoup menti. Les gens qui ont fait, les dirigeants politiques qui ont fait campagne pour le Brexit, on a été à nouveau en présence de mensonges et de fausses nouvelles. Et en réalité, ce que demande l'Union européenne aujourd'hui aux Britanniques, c'est de régler leurs problèmes à eux et puis de définir le lien qu'ils souhaitent être le lien futur avec l'Union européenne. Et pour l'instant, ils en sont incapables. Et Theresa May a dit l'autre jour, à la fin du vote, elle a dit aux parlementaires, elle a dit vous avez dit ce que vous ne voulez pas, mais vous n'avez pas dit ce que vous vouliez. Et l'Union européenne dit exactement la même chose aux Britanniques, aux dirigeants britanniques, à ses interlocuteurs britanniques. On a compris ce que vous ne voulez pas, mais dites-nous ce que vous voulez. Voilà, donc le blocage, il vient aussi beaucoup de là, je crois.
Bertrand Maddy.
Oui, moi j'ai envie de dire même faute, même punition. C'est toujours le même sujet. L'Europe est en crise, on le sait, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça dépend l'échelle de crise que l'on prend en considération. Mais tout le monde est d'accord pour considérer que l'Europe telle qu'elle a été inventée par les traités de Rome n'est plus celle qui correspond aux oui. paramètres d'aujourd'hui. C'est absolument évident. Le président de la République l'a très bien dit, le mot « refonder l'Europe » est un mot juste. Mais c'est la méthode Coué, on va refonder l'Europe et du coup elle se refondra. Mais il n'y a jamais de débat sur effectivement les façons de concevoir cette nouvelle Europe. Pour prendre le vocabulaire à la mode, je dirais l'Europe acte 2. En quoi va-t-elle consister ? L'Europe acte 1, celle des traités de Rome, c'était quoi ? C'était l'association d'États dans une double perspective, construire la paix, c'est réussi, reconstruire une Europe exsangue après la Seconde Guerre mondiale, ça a été réussi aussi. Mais tout ça relève des 20 premières années de ces traités de Rome. Depuis, l'Europe est tout à fait différente de ce qui était conçu par les pères de l'Europe. Et l'Europe, aujourd'hui, elle a plus besoin d'association d'États, c'est là le malentendu, elle a besoin de solidarité entre les sociétés européennes, d'intersocialité. Et ça, il n'y a pas, je dirais, un centimètre de parcouru en avant pour essayer d'imaginer ces nouveaux traités de Rome, ces nouvelles configurations de l'Europe. Vient la question migratoire. Que fait le Conseil européen ? Définir des mesures répressives, renforcer Frontex, etc. Mais penser l'Europe dans un monde où la migration va nécessairement se développer. Ça implique aussi des choix politiques positifs, c'est-à-dire inventer autre chose qui permette d'insérer l'Europe dans le monde. Qu'est-ce qui a été fait ? Rien, zéro. Alors effectivement, il faut comprendre la déception des peuples, des opinions publiques qui n'y croient plus en disant « mais c'est pas crédible cette affaire-là ». Autrefois, la crédibilité des nations européennes était beaucoup plus forte parce qu'on voyait les résultats positifs. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Cette décrédibilisation crée des envies de Brexit qui peuvent être du Frexit, ouais. d'Italicit ou des choses comme ça. Donc effectivement, la capitulation des élites politiques, des dirigeants européens, leur incapacité d'aller vers ces opinions publiques qui s'expriment, c'est la faillite actuelle. Alors, le référendum, enfin, je vais encore m'exciter sur le référendum, enfin, quel sens y a-t-il à demander à des Britanniques aujourd'hui, est-ce que vous l'êtes dedans ou dehors ? Est-ce que véritablement on peut tout résoudre à travers cette dualité.
Même si le paradoxe de la période en Grande-Bretagne, c'est que finalement, ce pays-là a désormais le mouvement pro-européen le plus énergique du continent, d'une certaine manière, Gaspard Ganzer.
Oui, c'est paradoxal, mais c'est intéressant, parce qu'on parle jamais d'Europe dans les débats nationaux, mais là, pour le coup, au Royaume-Uni, on en parle tout le temps. Donc Cameron l'a voulu, il n'est plus là, mais il l'a eu. Après, les Britanniques ont bien le droit, à un moment donné, de se reposer la question. Je vous rappelle que c'est par référendum qu'ils avaient décidé de rejoindre l'Union Européenne. Alors, 40 ans plus tard, ils ont décidé de faire le mouvement inverse. Ils ont le droit. Alors, peut-être qu'on ne sera pas obligé d'attendre 40 ans. Peut-être que ça sera 50, ça sera 10 ans, ça sera 15 ans. Ça leur appartient et c'est la démocratie. Mais pour rebondir sur un autre point qu'annonçait Bernard Madi tout à l'heure, celui du fond, en fait, du projet européen. Sur le plan de la paix, on a réussi, mais ça reste fragile. Sur le plan de la prospérité économique, on a réussi, mais ça reste fragile. Mais je pense qu'il y a des nouveaux enjeux européens. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début de notre émission, c'est le mot d'écologie, d'environnement. S'il y a bien un sujet qui peut se déployer à l'échelle européenne, s'il y a bien un sujet dans lequel on peut dépasser des égoïsmes nationaux, c'est bien l'écologie. Puisqu'on voit bien que c'est au niveau européen qu'on peut trouver des solutions sur la question de la réduction des gaz à effet de serre, des nouvelles mobilités, de la biodiversité, de la lutte contre les pesticides. Et je pense que c'est là qu'on pourra avoir ce débat-là.
Est-ce que vous avez cette confiance-là aussi dans ce débat des européennes qui s'annonce, François-Xavier Bellamy ? Est-ce qu'on va refaire de la politique avec d'un côté les tenants d'une Europe des solidarités, de l'écologie, si je reprends les mots employés à l'instant par Gaspard Hanzer, et de l'autre, des gens sans doute comme vous qui vont parler d'abord et avant tout d'une Europe des souverainetés ?
Ce qui est sûr, c'est qu'en tous les cas, il faut absolument que ce rendez-vous des européennes soit l'occasion de refaire de la politique, c'est-à-dire de reparler des grands choix qui nous attendent. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un seul modèle maintenant pour penser notre avenir dans la mondialisation. Il y a sans doute plusieurs manières de la penser avec lesquelles on ne sera peut-être pas d'accord. Il me semble que défendre la souveraineté, c'est-à-dire le fait que les peuples aient la possibilité de maîtriser leur destin et d'inventer leur destin, c'est effectivement une nécessité. Maintenant, comment la fonder dans ce monde, c'est une question. Et il ne faudrait surtout pas que le grand débat qui s'est engagé à partir de la crise des Gilets jaunes vienne écraser la nécessaire réflexion autour des élections européennes, parce que ce serait trop dommage qu'après une élection présidentielle manquée, eh bien on ait aussi une élection européenne qui se fasse sur un non-choix. La question des Gilets jaunes est directement connectée au problème des européennes, mais il faut qu'on arrive à l'élever jusqu'à ce niveau-là pour qu'on puisse s'engager ensemble dans une direction qui soit claire.
Merci beaucoup. Vos conseils de lecture avant de nous quitter, Sylvie Kaufmann.
Alors, moi, un livre très pédagogique, une brève histoire du Brexit, par Kevin O'Rourke chez Odile Jacob, et Kevin O'Rourke est irlandais, donc il est bien placé pour parler de tout ça. Et justement, on trouvera dans ce livre une petite correction à ce que vient de dire Gaspard, c'est-à-dire que les Britanniques n'ont pas accédé à l'Union européenne sur un référendum.
Oui, mais justement, c'est nous qui avons voté par référendum.
Oui, ouais. Et ils ont voté 2 ans plus tard, mais c'est intéressant parce que cet accès a été négocié par Ted Heath, le Premier ministre conservateur, avec les travaillistes. Donc il y avait en effet une coopération entre les deux grands partis qui a permis cette décision. Et 2 ans plus tard, il y a eu un référendum qui a confirmé cette...
Rapidement, vos conseils de lecture, Gaspard Ganzer.
Un très bon livre de Thomas Reverdy qui s'appelle « L'hiver du mécontentement » qui porte sur la période pré-thatchérienne, une crise politique majeure au Royaume-Uni qu'ils avaient réussi à dépasser.
Bertrand Badi.
Alors, un magnifique ouvrage, extrêmement utile, dirigé par un de vos confrères de RFI, Olivier Dallage, l'essor du nationalisme religieux. C'est absolument fantastique parce que c'est comparatif. On montre que le problème, c'est pas seulement l'islam, c'est toutes les religions dans le monde. Et c'est traité de manière extrêmement sérieuse et j'allais dire froide. Et vraiment à conseiller.
Merci beaucoup. François-Xavier Bellamy.
Un livre d'une figure qui n'est pas inconnue ici, Sauver l'Europe de Hubert Védrine. C'est un texte, je crois, qui mérite d'être relu à cette veille d'élection.
Merci beaucoup à tous les quatre. François-Xavier Bellamy, Bertrand Badi, Sylvie Kaufmann et Gaspard Ganzer. Je signale moi le cahier spécial de nos confrères d'AOC Média en librairie la semaine prochaine qui rassemble une vingtaine de contributions d'intellectuels sur cette crise des Gilets jaunes, dont celle de Bruno Latour dont je parlais tout à l'heure. Merci à Marine Beccarelli qui a préparé comme toujours avec moi cette émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisé, la technique aujourd'hui, Bruno Gagnère. À suivre ce dimanche, Julie Gacon, dimanche et après 18h15, qui s'intéresse au contrôle parlementaire sur les ventes d'armes en France. Marc Weizmann, 12h45, Signe des temps, qui reçoit le rédacteur en chef de Charlie Hebdo pour parler des anti-lumières, avec aussi la philosophe spécialiste de Montesquieu, Céline Spector. Et tout de suite, on mange épicé ce dimanche chez Caroline Brouet, avec la chef d'un grand restaurant indien. Ne manquez pas les bonnes choses. Bon dimanche et à la semaine prochaine.